Je vais donc parler du Mont des Oliviers et Gethsémani. Donc, puisque tout cela, en fait, Gethsémani, c'est au pied du Mont des Oliviers. Notre thème, je poursuis le thème, qui est « Je te conduirai au désert ». Nous avons parcouru, ces conférences de carême, divers lieux, et nous arrivons aujourd'hui à la fin de notre parcours. Nous sommes juste avant la Semaine Sainte, juste avant la fête des Rameaux, et nous arrivons donc à la frontière du désert, aux portes de Jérusalem, au Mont des Oliviers. Les évangiles nous rapportent que Jésus a passé sur ce mont une bonne partie de ses derniers jours avant la Passion. Ainsi, l'évangile de Luc décrit le quotidien de Jésus après son arrivée à Jérusalem, le jour des rameaux. On a ça dans Luc, chapitre 21, les versets 37. « Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il passait la nuit à la montagne appelée Montagne des Oliviers. Et tout le peuple, dès le matin, se rendait vers lui dans le temple pour l'écouter. » Donc on voit à ce moment-là, Jésus, la journée est dans le temple pour enseigner, et dès arrivé le soir, la nuit, il est sur le Mont des Oliviers. Alors, c'est quoi le Mont des Oliviers? Les plus célèbres photos de Jérusalem sont prises à partir du Mont des Oliviers, qui permettent de voir l'esplanade du temple. Actuellement, ce qu'on voit surtout, c'est la mosquée du dôme, c'est El-Aqsa. C'est ce dôme doré que l'on voit sur les photos de Jérusalem. L'avantage du Mont des Oliviers, c'est que c'est un lieu calme, bien en contraste avec l'intérieur de Jérusalem, et surtout à l'intérieur des murailles de Jérusalem, où là, le calme est rare. Le Mont des Oliviers a une longueur d'un peu plus de 3 km, 3,5 km, et est formé par des collines situées à l'est, donc à l'orient de la ville de Jérusalem. Au pied des murailles de la ville et du temple passe en fait un ruisseau, mais comme tout ruisseau du désert, c'est peut être dangereux, c'est le Cédron. Le Cédron, c'est ce cours d'eau qui a donné son nom à la vallée, donc, qui est à l'est de Jérusalem, qui passe au pied du temple. Et donc c'est la vallée du Cédron, appelée aussi vallée de Josaphat. C'est vallée du Josaphat qui vient de Jugement. Je reviendrai. Ce Cédron coule à peu près 9 mois par an. Au temps de Jésus, la vallée était un peu plus profonde qu'aujourd'hui. Elle avait une vingtaine de mètres en dessous. Elle a été partiellement comblée déjà du temps des Romains, quand ils vont faire la nouvelle ville de Jérusalem. De l'autre côté, par rapport à la ville, donc, se trouve le Mont des Oliviers. Mont des Oliviers, la crête est à peu près à 800 mètres. Le temple, c'est un peu plus de 700 mètres, donc c'est un peu au-dessus du temple. Et le Mont des Oliviers marque la frontière avec le désert de Judée. Donc d'un côté, on a Jérusalem, de l'autre côté, à l'est, le désert de Judée. Et donc juste après la crête, on trouve les villes de Bethphagée au milieu et Béthanie un peu plus au sud. C'est aussi le point de départ des routes qui partent vers la vallée du Jourdain et la mer Morte, en passant par Jéricho. Alors, les deux monts plus élevés qui vont délimiter le Mont des Oliviers est un, au nord, le mont Scopus, et au sud, le mont du Scandale. Le nom a été donné après que Salomon ait construit des sanctuaires païens à son sommet. On trouve, bien sûr, sur ce Mont des Oliviers, des oliviers. En fait, aussi beaucoup de tombeaux. Et je parlerai des tombeaux plus tard. Une remarque toutefois. faites attention aux guides à Jérusalem, quelquefois ils disent des choses qui ne sont pas justes. Les oliviers actuels sont certes plusieurs fois centenaires, mais ils ne peuvent avoir 2000 ans. Ils ne peuvent pas remonter à l'époque évangélique. Ils ont, normalement, on considère que les oliviers sont entre le XIIe et XIVe siècle, hein, qu'ils ont été plantés. Les oliviers du 1er siècle de notre ère n'ont pu résister aux deux sièges de Jérusalem par les Romains en 70 et en 135 après Jésus-Christ. Ils furent utilisés pour construire des palissades autour de la ville. Selon la tactique des sièges pratiqués par les Romains, donc aussi pour fabriquer des machines de guerre ou simplement alimenter les feux de camp des légionnaires. C'est raconté par Flavius Joseph dans la guerre des Juifs. Donc les deux oliviers actuels datent en réalité de l'époque du royaume latin de Jérusalem. Il est possible, après, qu'on ait replanté des oliviers avec des pieds plus anciens, faisant des boutures. Mais voilà, il reste plus grand-chose des oliviers qu'ont vu Jésus. Jésus est passé plusieurs fois par ce mont des oliviers. Donc la ville de Jérusalem est la ville de pèlerinage. Et selon la loi, la Pâque doit se célébrer là. Pour les juifs pieux, on y va. Exemple, l'épisode de Jésus au temple quand il avait 12 ans a lieu pendant le pèlerinage de la Pâque. C'est ce moment où Jésus reste tout seul dans le temple, alors que Marie et Joseph regagnent la ville de Nazareth. La ville ne comptait guère, à l'époque de Jésus, plus de 25 000 habitants. Elle était trop petite pour héberger tous les pèlerins qui montaient à la ville sainte pour les fêtes, et en particulier la fête de Pâques, le plus grand pèlerinage. Et tous ceux qui n'avaient pas pu trouver un hébergement en ville le cherchaient dans les villages et hameaux des alentours. Bethphagée, tout proche, devait donc être envahie dans les périodes de fêtes. Et un peu plus loin, Béthanie. C'est la ville des amis de Jésus, c'est Lazare, Marie et Marthe. Je citais tout à l'heure le témoignage de saint Luc sur la présence de Jésus au mont des Oliviers à la fin de sa vie. On a encore un autre évangéliste, c'est saint Jean, qui le signale, cette fois-ci à propos d'un pèlerinage lors de la fête des Tentes, donc durant la période publique de Jésus. Et la fête des Tentes a lieu en septembre, alors que Pâques, c'est au printemps. Je cite, c'est en Jean chapitre 8, il le cite à la fin de cette période de pèlerinage. « Quant à Jésus, il alla au mont des Oliviers, mais dès l'aurore, de nouveau, il fut là dans le temple, et tout le peuple venait à lui, et s'étant assis, il les enseignait. » La tradition chrétienne a surtout gardé le souvenir des derniers jours de Jésus avant sa passion. Plusieurs sanctuaires font mémoire des événements qui sont déroulés. Donc sur les hauteurs, nous trouvons le sanctuaire de l'Ascension, qui est actuellement en fait une mosquée, mais le bâtiment date de la période croisée. Et à côté, le Carmel du Pater, et les restes d'une ancienne basilique que l'on trouve en dessous, c'est l'Eléona, qui servait, une basilique du IVe siècle, qui servait à honorer le souvenir de l'Ascension, donc avant la construction de la chapelle à côté, et abriter la grotte où Jésus aimait séjourner et où il avait instruit ses disciples. Ensuite, quand on va et on descend le mont des Oliviers, on trouve une petite chapelle en forme de larme, Dominus Flevit, qui veut dire « le Seigneur pleure ». C'est l'endroit où Jésus, lors du chemin des rameaux, s'arrête à la ville pour pleurer. Cette chapelle est construite à la fin du XIXe siècle. Et plus bas, nous trouvons la basilique de toutes les nations, qui est en fait le lieu de Gethsémani, et la grotte de l'arrestation juste à côté. J'ai dit que le mont des Oliviers constitue un lieu de transition et de passage particulier entre le désert d'un côté et la ville de Jérusalem de l'autre. Cela est vrai au point de vue géographique, mais c'est encore plus manifeste au plan spirituel. Déjà dans l'Ancien Testament, bon, j'ai que 50 minutes, j'en parlerai pas, hein, c'est en fait le rituel de la vache rousse, hein, qui devait s'échapper dans le désert et mourir dans le désert, et donc elle était libérée sur le mont des Oliviers. Donc ça c'est pour l'Ancien Testament, mais plus fortement dans le Nouveau Testament. Le désert, le mont des Oliviers et la ville de Jérusalem constituent trois étapes dans le combat et la victoire du Christ sur le péché et la mort. Trois étapes bien particularisées. Alors je parlerai ici bien sûr de la deuxième étape, le mont des Oliviers. Mais pour bien éclairer mon propos, je vais parler rapidement des deux autres. Le désert apparaît comme le lieu de la conversion. C'est pour ça qu'on commence le carême par écouter les tentations de Jésus au désert. Alors ce n'est pas le désert de Judée, c'est celui qui est juste à côté de Jéricho, mais c'est bien ce désert de Judée, c'est ce désert qui sépare Jérusalem de Jéricho. Donc le désert, c'est le lieu de la marche du peuple. Alors ça, c'est de l'autre côté du Jourdain. C'est le lieu des tentations de Jésus, c'est le lieu où Jean-Baptiste va résider. C'est le lieu de la mise à l'épreuve, que ce soit personnel ou même communautaire. Le lieu où, personnellement, nous devons nous engager pour Dieu. Dans la tradition chrétienne, le désert est le lieu de la tentation comme mise à l'épreuve pour changer sa vie. Et nombre des disciples du Christ ont choisi d'aller au désert pour vivre ce temps-là. Les pères du désert en sont l'exemple le plus frappant. C'est cette même démarche que nous sommes invités à faire chaque carême, aller au désert avec le Christ pour nous convertir. De l'autre côté, Jérusalem est par contre le lieu du seul combat de Dieu. Jésus seul a été arrêté, seul il a été jugé. Les disciples vont devoir s'en aller. C'est d'ailleurs une volonté expresse de Jésus. Il déclare aux gardes venus l'arrêter, on a ça dans Jean chapitre 18 verset 7. Jésus demanda aux gardes: « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus le Nazoréen ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez cela s'en aller. » Pierre a bien cherché à accompagner Jésus, mais cela n'aboutira qu'à son reniement. Jean lui-même était bien présent jusqu'au bout. Il était là au pied de la croix. Mais il n'a été qu'un spectateur. Aucune de ses paroles ne furent rapportées dans son évangile. Au mont des Oliviers, les disciples sont là, contrairement à Jérusalem. Ils agissent bien comme disciples. Ils sont témoins des paroles et des actes du Christ. Ils participent même à ce qui se passe. En cela, ce temps est semblable à celui du désert. Mais le combat qui se propose à eux les dépasse largement, infiniment. Ils manifestent tout au long de ces jours-là leur incompréhension sur ce qui se passe vraiment. En cela, ils ressemblent à ce qui va se passer à Jérusalem. Mais commençons sur les hauteurs du mont des Oliviers, puisque c'est là que commence la semaine sainte, avec l'entrée de Jésus et des apôtres dans leur semaine sainte. Je relis l'épisode tout d'abord, en tout cas le début de l'épisode. Je prends là l'évangile de Luc. C'est Luc chapitre 19, versets 28 et suivant. Donc il y a un long discours de Jésus et l'évangéliste dit « Ayant dit cela, Jésus partait en tête, montant à Jérusalem. » Donc c'est la longue montée de Jérusalem depuis le nord d'Israël, en passant par Jéricho jusqu'au port de Jérusalem. Et il advint qu'en approchant de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des dits des Oliviers, il envoya deux des disciples en disant « Allez au village qui est en face et, en y pénétrant, vous trouverez à la tâche un ânon que personne au monde n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le. » Ils amenèrent donc à Jésus et, jetant leur manteau sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Et tandis qu'il avançait, les gens étendaient leur manteau sur le chemin. Déjà, il approchait de la descente du mont des Oliviers quand, dans sa joie, toute la multitude des disciples se mit à louer Dieu d'une voix forte pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Les sages de la Mishnah, donc les rabbins de la Mishnah, appelaient le mont des Oliviers le mont de l'onction. Har Hamashisha. Bon, excusez-moi, mon accent hébreu n'est pas génial. Donc, nommé d'après l'huile d'onction, préparée à partir des olives qui poussent sur le mont des Oliviers, pour oindre les grands prêtres et les rois. Les grands prêtres, c'est toujours, les rois, c'est de temps en temps. Et c'est proche du sens du mot « Messie », « Machia » en hébreu, ou « Christos » en grec. Par l'onction, l'huile réputée tout pénétrée, même la pierre, qui on s'en rend compte quelquefois sur une table en bois, quand il y a de l'huile, ça l'attache. Et même une table en pierre, ça peut l'attacher. Et c'est le signe de la pénétration de l'Esprit du Seigneur investissant un personnage, consacrant pour une mission. Donc, onction ou Christ, c'est la même chose. Christ qui a reçu l'onction. Jésus, en descendant le mont des Oliviers, se manifeste donc comme celui qui a reçu l'onction, celui qui est en lien avec l'onction, et donc le Christ, le Messie. Il fait son entrée sur un âne, même un ânon. Il est humble, porteur d'un message de paix, comme l'avait annoncé à la fin du IVe siècle avant Jésus-Christ le prophète Zacharie. Je cite, c'est Zacharie chapitre 9, verset 9. « Exulte avec force, fille de Sion, crie de joie, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, il est juste, victorieux, humble, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Donc ça, c'est l'humilité. À la fois, on y voit l'humilité du Christ, mais à la fois, le Christ se manifeste comme Seigneur. Sa royauté est soulignée par les gestes qui rappelle le rituel des intronisations royales. Vous pourrez voir en particulier le début du premier livre des rois avec l'intronisation du roi Salomon. Et donc les manteaux, les feuillages sont étendus sur le passage du roi et les acclamations de la foule reprennent les versets du psaume 117, le grand Hallel. Donc c'est le psaume en fait qui termine les psaumes alléluiatiques, les Hallel, qui sont les psaumes du pèlerinage de Jérusalem. Et donc là, je cite ce psaume, on l'entendra bien entendu ce dimanche, c'est le psaume de dimanche, Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel. Tout ce qui se passe, en réalité, rappelle la fête des tentes. On y faisait mémoire dans la fête des tentes, donc celle dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, c'est ce pèlerinage de Jésus, chapitre 8 de l'évangile de Jean, mais on fait mémoire du temps du désert, comme temps de proximité avec Dieu, où l'on construit avec des branches d'arbres des petites cabanes qui symbolisent ces habitations éphémères du peuple marchant avec Dieu dans le désert. Et le chant du psaume 117 célèbre, qui est le chant de la fête des tentes, célèbre la royauté universelle de Dieu et la venue de son Messie. Jésus reprend ce même symbolisme lors de son entrée à Jérusalem. Le peuple suit Dieu, le Christ, vers le temple. Si le peuple qui accompagne le Christ l'acclame, d'autres, en revanche, surtout parmi les pharisiens et les prêtres du temple, vont renforcer leur opposition à Jésus. Et donc je cite, toujours dans l'évangile de Luc, chapitre 19, cette fois-ci verset 39, quelques pharisiens de la foule lui dirent, « Maître, réprimande tes disciples, puisqu'il crie « Hosanna, béni sois-tu, Seigneur ». Mais il répondit, « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Jésus est donc tout à fait conscient de l'opposition qui se manifeste là, alors qu'il se présente comme le Messie, comme le roi entrant à Jérusalem. Il est conscient que l'affrontement est inévitable. Et c'est d'ailleurs le sens que développe saint Luc en rapportant la scène de Jésus pleurant sur Jérusalem. Et la voilà notre petite église Dominus Flevit. Je lis le passage. Luc chapitre 19, verset 41. Quand il fut proche à la vue de la ville, Jésus pleura sur elle. En disant, ah, si ce jour tu avais compris toi aussi le message de paix, mais non, il est demeuré caché à tes yeux. Oui, des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de retranchements, t'investiront, te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront sur le sol, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps où tu fus visité. Donc c'est ce que veut célébrer cette chapelle Dominus Flevit. La plupart des habitants de Jérusalem ne sont pas venus à la rencontre du Christ lors de son entrée dans la ville sainte. Il est suivi par contre par ses disciples et la foule des villageois, de Bethphagé ou de Béthanie. Quand Jésus est venu chez lui, les siens ne l'ont pas accueilli. Ce nous dit saint Jean dans son prologue. Jésus pleure sur la cité car elle n'a pas voulu reconnaître en lui le roi Messie attendu, ni accueillir son message de paix. Le Christ se présente donc bien comme roi lors de cette entrée à Jérusalem. Mais on peut remarquer très vite que ce titre n'est pas à prendre dans le sens commun. Lors de sa passion, à la question de Pilate qui demande à Jésus « Donc, tu es roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi. » C'est en Jean chapitre 18, verset 37. On a exactement la même chose dans tous les évangiles. Il accepte donc bien le titre de roi, mais en montrant pourtant qu'il n'est pas un roi à la manière des hommes. Je cite toujours Jean, chapitre 18, cette fois-ci le verset d'avant, le verset 36. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais mon royaume n'est pas d'ici. Comment donc comprendre cette royauté du Christ et le geste qu'il a posé lors des rameaux ? Heureusement pour nous, le Christ, alors qu'il se trouvait sur le mont des Oliviers, va donner le sens de son agir à ses disciples. Entre les rameaux et le jeudi saint, Jésus, donc, enseignait en journée dans le temple à tous ceux qui étaient là, et on sait que les différents groupes religieux qui composaient la société d'Israël vinrent le voir pour le mettre à l'épreuve. Et cela est rapporté dans les évangiles synoptiques. C'est les évangiles que, ben, en fait, on a entendu en fait pendant aussi au début de ce carême. Mais dans les évangiles selon saint Marc ou saint Matthieu, Jésus donne aussi un long enseignement, cette fois-ci le soir, aux seuls disciples. Cet évangile, selon saint Marc, a lieu sur le mont des Oliviers. Donc je lis l'évangile de Marc, chapitre 13, verset 3. Et comme Jésus s'était assis sur le mont des Oliviers en face du temple, Pierre, Jacques, Jean et André l'interrogeaient en particulier. « Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe que tout cela va finir ?» Alors Jésus se mit à leur dire « Prenez garde que l'on vous abuse. » Alors, et on a un long discours où je donne quelques points. Voilà, vous verrez l'abomination de la désolation installée là où elle ne doit pas être, que le lecteur comprenne, nous dit Marc. Bon, on a compris, c'était dans le temple. Le temple va être détruit. En ces jours-là, après ces tribulations, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de lumière, les étoiles se mettront à tomber. Alors il enverra les anges pour rassembler ses élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Venez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison va venir, le soir à minuit, au chant du coq ou le matin, de peur que, venant à l'improviste, il ne vous trouve endormi. Et ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Donc, Jésus donne une instruction particulière à ses disciples. Une certaine interprétation de Jean 14, 31, qui dit, nous sommes en plein milieu du discours de Jésus, après la scène, qui commence au chapitre 13 et qui va se finir à la fin du chapitre 17. Là, en 14, 31, le texte rapporte, Jésus dit, levez-vous, partons d'ici. Pourquoi on est en plein milieu du discours? Qu'est-ce que vient faire là? Alors, certains ont compris que Jésus allait dans un autre lieu. Et on voit les chrétiens de Jérusalem, déjà même au 4e, 5e siècle, ont compris que, en réalité, là, Jean partait du Cénacle, avec Jésus partait du Cénacle avec ses disciples, pour aller également sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers était creusé de grottes qui abritaient une partie des tombes. En fait, toutes les collines autour de Jérusalem habitaient des tombes. Là, on est à l'est, sur le mont des Oliviers, mais à l'ouest, on a l'autre côté, c'est le Golgotha. Et on sait qu'il y avait des tombeaux. Jésus a été mis là dans un tombeau neuf. Donc ça veut dire qu'il y avait plein de tombeaux tout autour du temple, en tout cas tout autour, là où la ville n'était pas bâtie. Aujourd'hui, tout ce qui est à l'ouest et au nord du temple est bâti. On ne trouve plus que les tombeaux à l'est. Donc, il y avait des grottes avec des tombeaux et des grottes aussi qui servaient de... où il y avait des bassins pour recueillir des olives. Ces grottes servaient aussi de repos pour le voyageur, hein, ceux qui n'avaient pas trop les moyens d'aller chez quelqu'un. Hein, ben, il logeait dans les grottes quand il venait en pèlerinage à Jérusalem. C'est dans une de ces grottes, près du sommet de la colline, que la tradition a situé, dès les premiers siècles de notre ère, les enseignements du Christ sur la fin du monde. Cette crypte se trouve aujourd'hui sous l'abside de la basilique récente dédiée au Sacré-Cœur, qui est le Carmel du Pater. Alors, bon, je passe, en fait, on l'a retrouvé par hasard. C'est une personne en pèlerinage, c'est la princesse de la Tour d'Auvergne, qui a voulu construire un Carmel à Jérusalem et qui a commencé, et puis tout d'un coup, on a trouvé des vestiges. Ces vestiges, c'est une ancienne basilique, une des grandes basiliques construites sous Constantin, qui s'appelle Éléona. Donc, au IVe siècle, c'est Sainte Hélène qui décide où vont être les basiliques. Donc, il y a trois grosses basiliques construites par Constantin en Terre Sainte. La première, le Saint-Sépulcre. La deuxième, celle sur la grotte de la Nativité, Bethléem. Et la troisième, l'Éléona, sur la grotte des Enseignements du Christ. Cette dernière est moins connue parce qu'elle n'a pas été conservée. Elle a été détruite très vite par en fait, les Perses au tout début du 7e siècle. Ben, cet édifice rassemblait les fidèles de Jérusalem, notamment à l'occasion du dimanche des Rameaux et durant la Semaine Sainte. L'évêque y lisait solennellement les discours eschatologiques en Marc ou Matthieu, et le soir du Jeudi Saint, le discours de Jésus après la scène. Mais revenons à l'enseignement du Christ. En prononçant son discours eschatologique sur le mont des Oliviers, le Christ reprend des éléments de la tradition juive. Lors de la destruction du Temple, lors de l'exil, au VIe siècle avant Jésus-Christ, la gloire du Seigneur était sortie par le côté oriental du Temple, notre du côté donc, du Mont des Oliviers. Et elle s'est arrêtée sur le Mont des Oliviers avant de remonter auprès de Dieu. C'est dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 11, verset 23. Et de même, Ézéchiel prophétise que la gloire va revenir, empruntant en sens inverse le même chemin. Ézéchiel, chapitre 43, verset 1. Je cite là. Donc c'est dans une vision. Et donc l'ange me conduisit vers le porche qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait du côté de l'Orient. Un bruit l'accompagnait, semblable au bruit des eaux abondantes, et la terre resplendissait de sa gloire. Alors je tombai la face contre terre, la gloire du Seigneur arriva au temple par le porche qui fait face à l'Orient. Donc par une petite porte qui est la porte dorée, la porte où doit passer le Messie. Ça, c'est la première des prophéties. Mais d'autres prophètes vont parler. Le prophète Zacharie, celui que j'ai cité tout à l'heure sur les rameaux, annonce également que le Messie apparaîtra sur le mont des Oliviers pour sauver Jérusalem. Zacharie, chapitre 14, « En ce jour-là, les pieds se poseront sur le mont des Oliviers et qui est en face de Jérusalem à l'Orient. » Il annonce aussi l'établissement en ces jours-là du royaume de Dieu sur toute la terre. Il arrivera en ces jours-là que les eaux vives sortiront de Jérusalem. Alors le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, le Seigneur sera unique et son nom unique. Et je cite un troisième prophète, c'est Joël. pour qui le mont des Oliviers sera le lieu choisi par Dieu pour le jour du jugement et la résurrection des hommes, invoquant le nom du Seigneur. Alors que toutes les nations viendront combattre Dieu, mais Dieu viendra sauver son peuple Israël. C'est en Joël chapitre 4. L'ensemble de ces prophéties en conduit la tradition rabbinique à enseigner que c'est sur le mont des Oliviers que commenceront à ressusciter tous les morts à la fin des temps, afin d'accueillir le retour du Messie. C'est la raison pour laquelle les Juifs ont commencé à utiliser ce mont comme lieu de sépulture, particulièrement, et encore aujourd'hui sont prêts à disposer des psaumes remarquables pour pouvoir y reposer. Le sud du mont des Oliviers est ainsi recouvert de tombes. Certaines sont très anciennes. Alors, il faut faire attention, hein, il y a des mots comme le mausolée d'Absalom. Absalom, c'est le fils de David. En fait, il est du 1er siècle avant Jésus-Christ. Et pas d'un... Absalom, c'est à environ 980 hein, avant Jésus-Christ. Donc, il est mort 9 siècles avant. Ça fait beaucoup. Ou il y a des mausolées dits de prophètes. En fait, ils sont du 1er siècle. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas quelque chose de plus ancien en dessous. Peut-être. En tout cas, on sait qu'il y a des tombes hein, qui datent très anciens, puisque même les Jébuséens, les anciens habitants de Jérusalem, avant que David en fasse sa cité, ont des tombeaux là. On peut être Dominus Flevit, par exemple. Hein, à Dominus Flevit, il y a des tombeaux qui datent du 12e siècle avant Jésus-Christ. C'est les Jébuséens. Les prophètes avaient parlé d'une façon assez obscure, hein, j'ai cité trois prophéties, de la crise qui inaugurerait le royaume universel de Dieu. Donc, selon plusieurs d'entre eux, toutes les nations s'uniront pour détruire Jérusalem, mais au moment le plus désespéré, Dieu interviendrait triomphalement pour établir son propre royaume. Voilà sans doute pourquoi, quand Jésus annonce la destruction du temple, il s'interroge pour savoir si Jésus ne va pas simplement rétablir la royauté de Dieu. Est-ce que ce n'est pas la fin du monde qu'il annonce? La réponse de Jésus est claire. La tragédie qui se terminera par la chute de Jérusalem est proche, mais ce ne sera pas la fin du monde. Le drame annoncé ne signifie pas que Dieu abandonne le monde aux forces du mal. Il s'agit plutôt d'un accouchement, d'un enfantement, que d'un abandon. Les rameaux ne manifestent donc pas le retour d'un roi temporel sur Israël, mais ils montrent que le grand combat eschatologique, les derniers temps, ont commencé. Le Christ, descendant du mont des Oliviers, entrant par la porte orientale du monde, vient écraser les ennemis, non pas les nations, mais le diable et la mort, et instaurer le royaume de Dieu. En tout cas, commencer. La scène de l'ascension, toujours en haut du mont des Oliviers, va dans le même sens. Cette fois-ci, ce n'est plus une annonce comme le jour des rameaux, mais c'est le signe que la victoire de ce grand combat eschatologique annoncé par les prophètes a déjà été menée et que le monde et les disciples du Christ participent déjà de la victoire depuis le jour de la résurrection. La nature humaine, comme trophée, accompagne le Verbe auprès du Père. Le Christ remonte donc aux cieux comme la nuée au temps d'Ézéchiel, et reviendra de la même façon, rendant visible alors pour tous les hommes la gloire éternelle de Dieu. Cela, vous pourrez le lire dans le livre des Actes des Apôtres, hein, au premier chapitre. Mais pour l'instant, retournons 40 ans auparavant, le soir du Jeudi Saint. Donc au moment où la grande bataille du Christ contre le péché va débuter, à l'heure où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. C'est en Marc 14, 41. Je lis l'Évangile selon saint Marc, et c'est celui-là que je vais suivre maintenant. Chapitre 14, verset 26. Après le chant des psaumes, donc Jésus et ses disciples partirent pour le mont des Oliviers. Et Jésus leur dit, « Vous allez succomber, car il est écrit, je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. » Pierre lui dit, « Même si tous succombent, du moins pas moi. » Jésus lui dit, « En vérité, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Mais lui reprenait de plus belle, « Dussé-je mourir pour toi ? Non, je ne te renierai pas. » Et tous disaient de même. Cette fois-ci, nous sommes le soir du Jeudi Saint, sur le mont des Oliviers, et c'est là qu'a lieu l'annonce du reniement de Pierre. Les évangiles synoptiques sont d'accord sur ce point. Bon, il y en a un qui n'est pas d'accord, c'est Jean. L'annonce du reniement a été faite au Cénacle, donc sur le mont Sion, de l'autre côté, dans la ville de Jérusalem. Donc, si jusqu'à présent les disciples ont pu suivre Jésus, tant bien que mal, la scène de l'agonie, Gethsémani, montre les disciples en fait accablés de sommeil. Les derniers jours leur ont dû être particulièrement éprouvants. Jésus leur annonce, en commençant par Pierre, qu'ils ne pourront plus le suivre à partir de là. Nous sommes maintenant en bas du mont des Oliviers. Deux lieux ont gardé mémoire des événements du soir du Jeudi Saint, quand Jésus a débuté sa passion à Gethsémani. Donc, le lieu de l'agonie, d'une part, et le lieu de son arrestation, d'autre part. Le jardin des Oliviers et la grotte de la Trahison, où les fidèles qui commémorent séparément les deux événements, semblent correspondre à la description des lieux par l'Évangile. Pas plus Luc que Jean ne donne le nom du lieu, mais parle de « képos », en grec, désignant un terrain cultivé ou un jardin, près de la vallée du Cédron. Mais certains détails conduisent à dédoubler les lieux respectifs de l'agonie et de l'arrestation. En effet, les évangélistes divisent la scène en deux espaces. Ainsi, par exemple, en Matthieu, chapitre 26, verset 36, « Et Jésus dit aux disciples, « Installez-vous ici pendant que je sors ou je pars, le terme grec, et le même, je pars, je sors, prier là-bas. » Luc donne même une idée de distance, environ un jet de pierre. C'est en Luc 22, verset 40. Gethsémani pourrait alors bien être le nom d'un site précis sur un terrain cultivé au-delà du Cédron, peut-être le pressoir à huile. Lors de l'arrestation qui a lieu sur le terrain cultivé, Jésus sortit de quelque part pour rencontrer les soldats. Ce que nous dit l'évangile de Jean, chapitre 18, verset 4. « Alors Jésus, sachant que tout allait lui advenir, sortit et leur dit, « Qui cherchez-vous » L'abri nommé Gethsémani pourrait être cette grotte, le jardin des Oliviers n'étant que ce qui entoure la grotte. Mais poursuivons la lecture de l'évangile de Marc, donc à partir du verset 32, toujours vers chapitre 14. Ils parvinrent à un domaine du nom de Gethsémani et il dit à ses disciples, « Restez ici tandis que je prierai. » Puis il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et il commençait à ressentir effroi et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici, éveillé. » Le bosquet donc s'appelle Gethsémani, Gat Shamaï. En araméen ou en hébreu, Gat, c'est un pressoir, et Shemen, c'est l'huile d'olive. Donc ça désigne un lieu de fabrication d'huile. C'est normal pour un mont des Oliviers. Un pressoir à olives se trouvait probablement dans une grotte au milieu d'un champ d'oliviers. Et les disciples ont campé dans la grotte. Hein, ils revenaient d'avoir célébré la Pâque avec Jésus, le soir du Jeudi Saint. Ils ne sont pas remontés tout en haut, ils sont restés en bas. Le nom de l'endroit fait allusion à la signification des événements qui se sont déroulés cette nuit-là. Donc, loin le Christ, loin de Dieu, pris au milieu d'une oliveraie, dans un lieu appelé pressoir à huile ou pressoir à olive, sur les pentes de la colline de la tente messianique appelée Mont de l'Onction. Alors que le Christ priait cette nuit-là, il a été soumis à une pression intense qui peut être comparée à ce qui se passe dans un pressoir à olive. Il a dit « Mon âme est triste à en mourir ». Et Luc, chapitre 22, verset 44, raconte « Entré en agonie, il priait de façon plus insistante et sa sueur devint comme de grosses gouttes de sang qui tombaient en terre. » Mais le temps de la séparation d'avec les disciples est arrivé. Et elle débute par un geste d'amitié de l'un d'entre eux à l'égard de son maître, geste qui est aussi celui de la trahison. Je cite toujours Marc 14, verset 43. « Aussitôt, comme il parlait, survint Judas, l'un des douze, et avec lui une bande armée de glaives et de bâtons, venant de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Or, le traître leur avait donné le signe convenu. « Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui. » Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Et aussitôt arrivé, il s'approcha de lui en disant « Rabbi » et lui donna un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. La scène s'achève par la fuite des disciples. Verset 50. « Et l'abandonnant, ils prirent tous la fuite. » Un jeune homme le suivait, n'ayant pour tout vêtement qu'un drap, et on le saisit. Mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Ce disciple inconnu qui suivait Jésus de loin, lui aussi s'enfuit. J'ai dit tout à l'heure que les disciples n'ont pas pu suivre Jésus après son arrestation. Je précise ici pour Jean. Jean est le seul qui va suivre Jésus. Il suivra Jésus jusqu'à la croix. Mais lui non plus ne va rien pouvoir faire. Même quand Jésus remettra sa mère à ce disciple, il ne dira rien. À ce moment-là, nous sommes comme lui. Nous ne pouvons plus qu'être spectateurs de ce qui se passe, de la passion du Christ. Mais c'est bien pour nous que le Christ mène ce combat. Viendra même un temps où nous ne pourrons même plus le voir, rien voir, quand la pierre du tombeau va être roulée. Là, il n'y a plus de témoins. Il faudra attendre le matin de Pâques pour que la vie reprenne ses droits. Le mont des Oliviers est donc bien ce lieu de passage où l'homme doit peu à peu s'abandonner dans les seules mains du Christ.